Néanmoins, c'est un sujet original, parce qu'en fait, ça nous gêne toujours un peu aux entournures, parce que nous ne savons pas forcément toujours, effectivement, comment aimer. Et nous sommes toujours handicapés, finalement, sur ce plan. Donc, voyez-vous, il se trouve que, alors que j'ai presque 80 ans, je n'ai jamais prêché dans un temps sur la question de l'amour avant il y a 2 mois. Et voilà, c'est un fait, c'est curieux. Certainement parce que finalement, c'est bien la question qui nous gêne le plus aux entournures. Quand on pense à l'amour, bien sûr, on pense à l'amour entre conjoints, mais aussi de l'amour du prochain, de façon générale. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est-à-dire nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos collègues de travail, voilà. Comment vivre l'amour de cette manière-là, avec ces gens-là? Je voudrais prendre pour cela 3 paraboles de l'enseignement de Jésus-Christ. Et la première est certainement la plus scandaleuse de toutes les paraboles de Jésus-Christ, et peut-être le texte le plus scandaleux de l'ensemble de la Bible. Et vous ne la connaissez certainement pas parce qu'on ne prêche jamais dessus. Et c'est une parabole qui fait le désespoir des honnêtes gens, des banquiers protestants de Genève, et aussi éventuellement des trésoriers des paroisses. Je vous la lis, elle se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16, et elle est intitulée dans la Bible Second « L'intendant malhonnête ». Jésus dit aussi à ses disciples, il y avait un homme riche qui avait un intendant et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus continuer à assurer mon intendance. L'intendant se dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens? Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, écoutez bien, pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison quand je serai relevé de mon intendance. Alors, il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Et l'autre lui dit, « 100 mesures d'huile. » Et l'intendant lui dit, « Eh bien, écoute, prends ton billet et écris à la place de 100, écris 50. » Et il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ?»« 100 mesures de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris à la place de 100, écris 80. » Et le maître loua l'intendant, alors c'est pas, dans le texte grec, c'est pas malhonnête, c'est injuste, mais ça change tout. Et le maître loua l'intendant injuste de ce qu'il avait agi en homme prudent. Et ça se termine par cette dernière parole de Jésus, faites-vous des amis avec des richesses injustes. Ça vous fait rire, madame? Eh bien, écoutez, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui aurait témoigné de l'amour pour son prochain? Eh bien, vous allez me dire, peut-être à la rigueur, le patron, le maître, qui témoigne de l'amour pour l'intendant, Eh bien, non. Celui qui témoigne de l'amour pour le prochain, c'est l'intendant. Parce qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans le texte, et c'est bien que ça n'apparaisse pas, mais qu'il faut néanmoins savoir. Donc, il s'agit d'un patron qui est certainement, je ne sais pas, très loin, enfin bon, et puis qui est le maître d'un domaine où il y a des métayers et des fermiers, et donc il y a un intendant qui gère la propriété à la place du patron. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cet intendant est rémunéré à la commission, c'est-à-dire que, en fait, quand les métayers versent 100 mesures d'huile au patron, en fait, il y en a 50 pour le patron et 50 pour l'intendant. Et quand un métayer doit 100 mesures de blé pour chercher 100 mesures de blé, il y en a 80 pour le patron et il y en a 20 pour l'intendant. Donc, effectivement, c'était comme ça, parce que les patrons étaient très très loin, et en fait, donc, toute la charge vraiment de l'administration était vraiment réservée au gérant, on dirait maintenant au gérant ou à l'intendant. Donc, qu'est-ce que fait, en fait, cet homme, qui apparaît donc tout à fait injuste, voire malhonnête? En fait, il déduit sa commission des sommes qui sont dues par les métayers. Et c'est pour ça que finalement, l'un doit payer simplement 50 mesures de blé et l'autre 80 mesures d'huile, je crois. Voyez-vous donc, et je vous dirais que c'est ceci qui me paraît la première forme de l'image de l'amour du prochain, c'est une forme de renoncement. De renoncement à son bon droit. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut dire que l'intendant est injuste parce qu'il renonce à l'accomplissement de ce qui serait juste, à savoir qu'il perçoive sa commission sur les revenus versés par les métayers. Il n'est pas du tout malhonnête, bien au contraire, mais il est finalement injuste dans le sens où il n'exige pas ce que prescrirait la justice et le bon droit. Et je pense, voyez-vous, que c'est bien là la première forme, peut-être la plus difficile, après ça, la plus difficile, la plus impossible même quelquefois, de l'amour, qui est de renoncer à son petit moi, ou pour parler comme Freud, le bon docteur Freud, sa majesté le moi. Sa majesté le moi, c'est celui qui dit « j'ai droit à ce qu'on me respecte, j'ai droit à ce que mes exigences soient satisfaites, j'ai droit à exiger que ça se passe de telle ou telle manière parce que c'est comme ça que je le veux et c'est surtout parce que c'est comme ça que ça doit se faire ». Voyez-vous donc qu'effectivement, la première forme de l'amour par rapport au prochain est sous la forme d'une sorte d'abstention par rapport à son bon droit, à ses exigences légitimes ou illégitimes, peu importe, que l'on a vis-à-vis de son prochain, et en particulier, bien sûr, vis-à-vis de son conjoint. Là où les choses se nouent le plus souvent possible. Et alors, bien sûr, le renoncement, c'est une forme de sacrifice. On peut dire qu'effectivement, c'est une forme de sacrifice. Mais certainement, le mot sacrifice vous fait peur. Il n'est plus tellement à la mode maintenant. Bon, si on dit qu'une femme doit se sacrifier devant son époux, je pense que je ne pourrais même pas terminer cette prédication tranquille. Voilà. Bon, et par contre, si je dis que l'époux doit sacrifier. Bon. Mais en fait, si vous n'aimez pas le mot sacrifice, mais d'ailleurs, moi, j'aimerais bien que vous le retrouviez un petit peu sa signification réelle à ce mot sacrifice. Vous pouvez prendre un mot qui a été extrêmement à la mode il y a une trentaine d'années et qu'on entend beaucoup moins, qui est le mot de lâcher prise, qui est un mot hérité du bouddhisme zen. Et le lâcher prise me paraît quelque chose d'extrêmement souhaitable, fondamental, qui est effectivement une sorte de, bon, lâcher prise, c'est-à-dire en fait dire, bon, voilà, je laisse tomber. C'est une forme d'abandon, une forme de désintérêt, une forme à la limite d'indifférence vis-à-vis d'un certain nombre d'exigences que l'on pourrait avoir vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de réclamations, de demandes, et aussi vis-à-vis, je dirais, de désirs de pression, d'autorité qu'on voudrait exercer sur lui. Un lâcher-prise par rapport à soi-même. Je vais vous donner deux exemples pour me faire comprendre. Je prends l'exemple, c'est tout à fait d'actualité, des primaires dans les élections présidentielles. Chacun est là avec son petit moi. Je ne veux pas lâcher prise, je ne veux pas lâcher du coup. Et l'enseignement de la parabole qui est ici, vous serez à dire, eh bien, effectivement, lâchez prise par rapport à votre petit moi, et puis finalement, vous vous ferez ainsi des amis parmi les autres concurrents, et que le meilleur gagne aux élections, à une primaire par exemple. Et effectivement, tout le monde serait gagnant, tout le monde serait gagnant. Parce qu'effectivement, si le mieux placé passe, eh bien, ça a plus d'intérêt et d'utilité que si tout le monde se retrouve à 5% des intentions de vote. Et effectivement, dans l'histoire de mon intendant injuste là, tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Pourquoi tout le monde est gagnant? Eh bien, les métayers peuvent effectivement maintenant régler ce qu'ils doivent, puisque au lieu d'avoir à payer 100 mesures, ils ont simplement 50 ou 80 mesures à payer, donc finalement c'est davantage possible pour eux. Le patron, qui jusqu'à présent n'arrivait pas à voir la couleur des sommes qui lui sont dues, est content parce que finalement ce qui lui revient, eh bien, lui revient. Et quant à l'intendant, eh bien, il est gagnant aussi, parce qu'il s'est fait des amis avec des richesses injustes et parce qu'il est maintenu dans sa fonction et il ne perd pas son emploi. Donc voyez-vous, c'est un renoncement à son moi-je, c'est un renoncement à sa majesté le moi qui finalement fait un challenge qui est gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant pour les métayers, gagnant pour le patron est gagnant pour l'intendant. Je prends un autre exemple, celui des dettes du tiers-monde vis-à-vis de l'Europe ou de la France. Eh bien, le fait de renoncer au recouvrement de ces dettes est une opération gagnant-gagnant, parce qu'en fait, le pays africain, mettons, retrouve une sorte de vigueur, il n'est plus accablé par le remboursement des intérêts et du capital de la dette, donc il fait un peu plus prospérer son économie, les gens sont un peu plus actifs et dynamiques et peuvent créer davantage d'entreprises, et par là même, eh bien, on peut exporter du bon cacao vers les dents des jeunes femmes et des jeunes hommes affamés de France. Et inversement, effectivement, comme le pays est plus riche, eh bien, on peut exporter vers ce pays davantage de l'instrument, de l'ordinateur ou je ne sais quoi. Donc, voyez-vous, c'est une opération gagnant-gagnant, tout comme dans la parabole, c'est une opération gagnant-gagnant. Donc, effectivement, je pense que cette manière de sacrifier son légitime quant à soi et ses légitimes demandes sous l'autel du bien commun me paraît la première forme de l'amour, à la fois dans la vie de couple et aussi dans la vie tout court. Deuxième parabole, alors celle-ci elle est plus connue, et c'est la parabole du bon samaritain. Donc, je vous la lis, elle se trouve également dans l'évangile de Luc. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, elle se trouve au chapitre 10. C'est sur la question, on parle d'aimer son prochain, mais qui est mon prochain? Cette question-là, parce qu'on disait, bon, c'est très bien, mais on veut aimer mon prochain, bon, d'accord, mais mon prochain, mais qui est mon prochain? Si on dit que mon prochain, c'est Hitler, ou si on dit que mon prochain, je ne sais pas pourquoi, c'est Staline, eh bien, ma foi, aimer mon prochain, qui est mon prochain, finalement? Voilà. Alors, donc, voilà. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit, dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, j'en précise pour dire que s'il fallait traduire exactement le grec, c'est pas « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est « tu aimeras vers ton prochain comme un autre qui est un autre toi-même ». Ce qui est tout à fait différent et évite de dire, comme on l'entend beaucoup trop souvent, que pour commencer pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est pas du tout ça qui est écrit. Donc voilà, tu aimeras vers ton prochain, qui est un autre toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait sur ce même chemin, il vit l'homme et il passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il vit le blessé et il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin, et il le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui ». Et je te paierai ensuite ce qui t'est dû. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands ? Et il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Eh bien, cette parabole que vous connaissez tous très bien, je suppose, elle réserve aussi une surprise. Si je vous demande qui est l'image de l'amour et de l'amour du prochain, vous allez me répondre, le Samaritain, qui témoigne de l'amour pour son prochain, qui est le blessé. Bon, vous avez raison. Mais en fait, le texte ménage une surprise, parce qu'à la fin, vous avez bien entendu, celui que l'on désigne comme le prochain, c'est le Samaritain qui est le prochain. C'est le Samaritain qui est le prochain du blessé. Donc, l'amour du prochain, c'est l'amour du blessé pour le Samaritain, d'après le texte. L'amour du prochain, ce n'est pas tant l'amour du Samaritain pour le blessé, c'est l'amour du blessé pour le Samaritain. Et donc, voilà, oui, que ça change les choses. Parce que finalement, voyez-vous, l'amour n'est pas seulement, ni même peut-être au premier chef, cette sorte de générosité que l'on a, qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui est tombé dans le fossé. Voilà. Mais l'amour est une forme de reconnaissance pour quelqu'un que l'on voit comme son sauveur. Et voyez-vous, je pense que dans les relations de famille, dans les relations conjugales, dans les relations de famille, c'est une chose qui me paraît extrêmement importante. La reconnaissance, la gratitude, la louange me paraissent les moteurs les plus durables de l'amour dans le temps. On dit quelquefois que aimer, c'est connaître l'autre à fond. Eh bien, non, je ne pense pas que ça soit cela. On ne connaît jamais quelqu'un grâce à l'autre. Et si on prétend le connaître, eh bien, d'une certaine manière, on le possède. D'ailleurs, vous savez, dans la langue hébraïque, connaître une femme, c'est la posséder. Eh bien, par contre, reconnaître, avoir de la reconnaissance, est un mouvement qui se renouvelle toujours et qui peut se manifester chaque matin comme une forme de louange et de gratitude. De gratitude, le mot gratitude a la même racine que le mot grâce. Donc c'est rendre grâce. Rendre grâce pour l'autre que l'on voit comme une grâce tombée du ciel, comme une grâce donnée par cette infinie miséricorde que nous appelons Dieu et qui vient d'au-delà des étoiles. Effectivement, le Samaritain, pour le blesser, on peut dire qu'il est quelqu'un qui est tombé du ciel. Le blessé ne sait rien, il n'a aucune connaissance par rapport au Samaritain. Il n'a que de la reconnaissance. Il a une reconnaissance sans avoir aucune connaissance. Et c'est cela l'amour. C'est avoir de la reconnaissance avant d'avoir la prétention à la connaissance de l'autre. Effectivement, ce Samaritain, il vient de nulle part. Il arrive comme ça, sur sa monture, on ne sait rien ce qu'il est. Et puis après avoir donc secouru le blessé, eh bien, il repart, comme ça, il disparaît à l'horizon, un peu comme Lucky Luke, si vous voulez, à la fin des albums. Hein, Lucky Luke s'en va, et ouais, il disparaît, et même pour... Je vais le dire en français, je suis un pauvre cow-boy solitaire, et il repart comme ça. Eh bien, effectivement, c'est ça l'itinéraire de ce Samaritain. Vous savez, les Samaritains n'étaient pas du tout aimés, hein, c'était des descendants de colonisateurs, c'était des gens très très sympathiques. Là. Maintenant, nous avons tous une image favorable des Samaritains, mais en fait, les Samaritains n'étaient pas des gens pas du tout, du tout sympathiques, en particulier pour les Juifs. Eh bien voilà, donc c'est ce Samaritain venu de nulle part et parti vers nulle part, cet inconnu, cet étranger, c'est celui-là vis-à-vis duquel s'exerce cette sorte de reconnaissance fondamentale. Voyez-vous, donc l'amour me paraît d'abord et avant tout une forme de reconnaissance. Et c'est pour ça finalement que l'on peut dire dans le sommaire de la loi, à la fois tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain. Si l'amour, c'était simplement avoir pitié de l'autre, comment pourrait-on dire aimer Dieu ? On n'a aucune raison de dire aimer Dieu si on voit Dieu comme un blessé au bord du chemin. Par contre, on peut tout à fait comprendre que si l'amour est d'abord une forme de reconnaissance, on puisse dire aimer Dieu, et de la même manière, et par le même verbe, aimer son prochain ou aimer vers son prochain. Parce que l'amour est d'abord une forme de gratitude et d'admiration et de gratitude. C'est la définition que donne Spinoza. Spinoza, c'est un philosophe que j'ai appris à connaître sur le tard. Et quand il définit l'amour, plus exactement l'amitié, c'est aussi bien d'employer le mot amitié, c'est plus simple. Il dit que l'amitié, c'est se réjouir de l'existence de l'autre. L'amitié, c'est se réjouir de l'existence de l'autre, de la présence de l'autre. J'en viens à ma troisième et dernière parabole. Elle est extrêmement connue. C'est la parabole du fils prodigue. Et là aussi, n'est-ce pas, vous la connaissez tous, je vais vous la lire quand même, mais vous la connaissez tous. Qui est-ce qui témoigne de l'amour pour son prochain ? C'est le père. Bon, vous n'avez pas tort. Mais je vous réserve une surprise qui ne sera plus une surprise parce que ça fait la troisième surprise de cette prédication. Donc, je vous dis peut-être pas en entier la parabole du fils prodigue. Elle se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15 à partir du verset 1. Donc, vous savez, un homme avait deux fils. Il donne sa part de bien au cadet, et il s'en va, et il mène la vie. Moitié Don Juan, moitié coquin, moitié cochon, pas tout à fait cochon, puisqu'il n'a même pas le droit de manger la nourriture des cochons. Voilà, bon, enfin, il va de dépravation en dépravation sous toutes ses formes. Et puis donc, il rentre en lui-même, et il décide de retourner vers son père, vers la maison de son père. Et il se leva et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. En fait, Vous voyez donc, le fils perclus, le fils perdu, le fils souffreteux, le fils loqueteux va vers son père pour se blottir dans son père. Mais le père, lui, qui depuis 20 ans est sans son fils, qui se reproche peut-être de l'avoir sans un mot laissé partir, sans un mot. Le fils parle au père, le père ne parle pas au fils. Laissé partir, même en lui donnant la part de bien. Le père qui depuis 20 ans est lui-même de plus en plus perclus de rhumatisme, de plus en plus vieilli, de plus en plus attristé, de plus en plus esselé, eh bien le père court vers le fils et se blottit lui-même dans les bras du fils. Et c'est cela que je voudrais vous dire. L'amour, c'est deux solitudes qui s'inclinent l'une vers l'autre, qui se blottissent l'une avec l'autre, qui se conjuguent ensemble, deux solitudes et deux faiblesses. On dit quelquefois que l'amour, c'est une force. Bon, je veux bien, d'accord. Mais je préfère dire que l'amour, c'est une faiblesse. C'est l'expression d'une faiblesse. D'ailleurs, la langue courante le dit bien, puisqu'on dit avoir un faible pour quelqu'un. Donc, voyez-vous, c'est une forme de faiblesse. Eh bien, voyez-vous, l'amour, c'est avoir un faible pour les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est avoir une forme de tendresse et de compassion pour l'autre quand il est faible, quand il a des faiblesses, pour l'autre quand il s'est trompé, pour l'autre quand il vous a trompé. L'amour, c'est une hospitalité vis-à-vis de l'autre lorsqu'il est en tort. L'amour, c'est une compassion, c'est-à-dire une souffrance avec l'autre, un partage de souffrance de l'autre quand il souffre. L'amour, c'est lorsque un moins que rien se conjugue avec un autre moins que rien. Le fils prodigue qui est devenu un moins que rien, qui se conjugue avec le père, qui lui aussi, à force de l'attendre, est devenu un moins que rien. Alors vous allez bien sûr me dire, un moins que rien plus un moins que rien, que le premier d'entre vous en mathématiques me réponde, un moins que rien plus un moins que rien, ça fait combien ? Ben, ça fait pas grand-chose. Eh bien, vous vous trompez. Un moins que rien plus un moins que rien, ça fait deux. Et deux heureux. Ça fait une unité des deux. C'est ça qui constitue l'unité des deux. Effectivement, je pense que, voyez-vous, c'est comme ça peut-être la manière la plus décisive par laquelle je définirais l'amour. Une faiblesse devant l'autre, une faiblesse où on abandonne toutes ses exigences, toute sa volonté de puissance, tout son bon droit, et une faiblesse vis-à-vis des faiblesses de l'autre. Et c'est une hospitalité par rapport à l'autre lorsqu'il est mal en point. Et hospitalité, c'est la même racine qu'hôpital. L'amour, c'est être une forme d'hôpital pour l'autre. Et l'amour, c'est aussi aller vers l'autre comme vers un hôpital. L'amour, c'est la solidarité dans, je dirais, dans la confusion, dans l'erreur. D'ailleurs, voyez-vous, on dit que, voyez, vous connaissez tous la phrase « L'homme quittera son père à sa mère et il s'unira avec sa femme et ils seront une seule chair ». Bon, et tout le monde croit qu'une seule chair, ça veut dire qu'ils couchent ensemble. Une seule chair. Eh bien non, mais non, en hébreu, c'est pas ça. Une seule chair, le mot chair en hébreu, caractérise en fait la faiblesse. Et même, je dirais, non seulement la faiblesse, mais également les fautes, pourrait-on dire. Hein, les fautes. Eh bien, effectivement, être aimé, son conjoint ou son prochain, c'est être une seule chair, c'est-à-dire une seule faiblesse. C'est lorsqu'on abandonne les prétentions à la vertu et à la force pour pouvoir se débarrasser de cette cuirasse que nous portons en permanence, celle de nos faux semblants et de nos fausses fiertés, pour se dépouiller de cela et d'être faible avec l'autre qui lui-même est faible avec vous. J'aime beaucoup cette phrase du poète Rilke qui qualifie l'amour de la manière suivante, je l'ai déjà plus ou moins dit, mais je le redis. L'amour, c'est deux solitudes qui se conjuguent, qui se protègent, qui se complètent et qui s'inclinent l'une vers l'autre. Et la dernière image que me laisse Jésus sur la croix, c'est celle-là. Vous savez, Jésus est sur la croix, et il y a au pied de la croix, il y a Marie, sa mère. Il va la laisser seule en mourant. Et il y a aussi Jean, le disciple bien-aimé. Il va le laisser seul. Deux solitudes, deux faiblesses, celle de Marie, celle de Jean. Et Jésus dit à Marie, sa mère, « Mère, voici ton fils. » Et elle lui montre Jean. Et il dit à Jean, « Jean, voici ta mère. » Et il lui montre Marie. Et dès lors, Jean l'a pris dans sa maison. L'amour, une maison commune pour deux faiblesses, deux solitudes. Voilà, donc je vous ai dit trois choses. La première, l'amour, c'est être un homme qui s'empêche. La phrase est de Camus dans le premier homme qui est son dernier ouvrage. Qu'est-ce qu'un homme, dit-il ? Un homme, ça s'empêche. Voilà. La force, finalement, la volonté, la puissance, ce n'est pas de faire, d'exiger, d'exercer son autorité sur l'autre. La force, la puissance et l'autorité, c'est la possibilité de s'empêcher. De s'empêcher de dire « moi, je, j'ai droit à, ça doit être comme ça parce que c'est légitime que ça soit comme ça ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour l'amour comme louange, comme reconnaissance, je vous citerai la phrase d'une femme dont venait d'enterrer son mari. Son mari était un homme, un vrai protestant au sang froid, un homme austère. Elle, par contre, était extrêmement pétulante, rayonnante et chaleureuse. Et elle m'a dit, mon mari m'a dit, un peu avant de mourir, « J'ai besoin de toi comme le lézard a besoin du soleil. » Eh bien ça, effectivement, c'est l'amour. C'est l'amour de pouvoir dire à l'autre « J'ai besoin de toi comme le lézard a besoin du soleil. » Et ça donc, c'était le commentaire de la parabole du blessé, là, le bon samaritain. Et puis, dernier point, ben, je redis une fois de plus cette phrase que je vous laisse. De solitude se protégeant, se complétant et s'inclinant l'une vers l'autre. Amen.